Bonjour à tous et à toutes, bonsoir. Voilà, on finit de se préparer tranquillement. Yofi, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que Johan est là? C'est une très bonne question. Je ne saurais te dire. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend bien? On peut y aller? J'attends juste votre confirmation qu'on entend. Et on y va. Oui. Bon, bah alors, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Eh ben, très bien. Yala. RF Tov les Koulam. Juste, je vais attendre une seconde le Ishour. Voilà, très bien. Je vais juste attendre le Ishour de la régie. Est-ce que un membre de Midreshet Manitou peut me faire signe et me dire si on peut commencer ou pas? Ok, bah alors c'est parti. Midreshet Yehuda a dit ok, alors on est ok. Erev Tov Lekoulam, bienvenue pour notre étude. Et ce soir, une petite étude, vous vous en doutez, sur ben, la période que nous vivons actuellement et sur évidemment la fête, entre guillemets, qui arrive la semaine prochaine. Je veux parler évidemment de la période du Homer. Aujourd'hui, nous allons parler du Homer, de toute cette période extraordinaire. Alors, le cours s'appelle, si je ne me trompe pas, le Covid-132. Le Covid-132 et Rabbi Akiva. Alors, comme vous le savez, le Covid-19 s'appelle 19 parce qu'il a commencé en 2019. Donc, moi, j'ai appelé le Covid-132 faisant référence à cette fameuse épidémie qui aurait frappé les élèves de Rabbi Akiva en l'an 132. Alors, de quoi parlons? Les amis, avant qu'on rentre dans l'épidémie, le Covid, tout ça, inanime, je voudrais d'abord qu'on se rappelle d'une chose évidente de base. Lorsqu'on parle, Rabotai, lorsqu'on parle de la période de Homer, de Sfirat à Homer, eh bien, normalement, la période de Sfirat à Homer est une période de joie. Qu'est-ce que ça veut dire de joie? Si je prends les versets dans la Torah, on me dit Usfartem lachem mimachorat haShabbat miyom eviachem et Omer atenufa sheva Shabbatot temimot tiena ad mimachorat haShabbat haShevi'it tisperu chamishim yom veikravtem mincha chadasha laHashem. En d'autres termes, j'entends que mes enfants s'entretuent. Que faire? Que faire? C'est incroyable. Je ne sais pas si j'en aurai toujours quatre à la fin du shiour. On ne sait pas. J'irai vérifier tout à l'heure. C'est la surprise. C'est la surprise. Bekitso. Vous croyez que je dois y aller? Tu veux que je les éclate en live, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Bon, donnez-moi très exactement 10 secondes. Je suis vraiment désolé. C'est ce qu'on appelle les inconvénients du direct. 2 secondes. Enfin, 10 secondes.
Alors tu parleras.
Voilà, on est revenu. Ça y est, laisse-les vivre. Non, mais il faudrait qu'eux, ils me laissent vivre aussi. Il va avouer. Il n'y en a qu'un qui retourne à l'école pour l'instant et encore de moitié. Alors, je te jure. Bon, allez, c'est reparti. Donc, les amis, donc, lorsqu'on parle de la période, oui, bah ça se passe chez les autres. C'est ça. C'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bekitsour, on reprend. Donc, quand on parle de la période du Homer, ou Tzfartem Lachem Lachot HaShabbat, ce sont des versets, en fait, qui vont faire le lien entre le Machorat HaShabbat, sans rentrer pour l'instant dans la Machloket avec les Tzoukim, hein, on parle du lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc, c'est une période qui est là pour rattacher deux moments de joie. Deux moments de joie, ce n'est pas en général séparé par un moment de deuil. Si bien que lorsqu'on va regarder le commentaire du Ramban sur la période et ses journées du Homer, de Sfirat à Homer, eh bien le Ramban va tout simplement nous dire qu'il s'agit d'un grand Chol HaMoed. Que de la même façon que entre le premier jour de Sukkot et le dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret, eh bien il y a Chol HaMoed, et c'est une période de joie, Chol HaMoed, c'est une fête. Eh bien de la même façon, entre Pessah et sa Atzeret, sa clôture à elle, à savoir Shavuot, eh bien il y a 50 jours, 49 jours pour être exact, de Chol HaMoed. Donc ce sont des Yemei Simcha. Chol HaMoed, c'est Simcha. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle Homer, eh bien la première chose qui nous monte à l'esprit, c'est non pas ce que véritablement représentent ces journées-là, mais tout de suite on te parle de deuil, de trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Et toi, tu as le droit d'écouter la musique, on n'a pas le droit d'écouter la musique, a cappella, pas a cappella, tu te rases pour le match. Mais attends, comment c'est possible? C'est le Homer. Les amis, oui, alors j'ai compris, on va passer tout le cours à parler des problèmes qu'on a avec les enfants. Je sais, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Bessède. Donc, comment ça se fait qu'on est passé de là à là? C'est une période de joie qui est devenue pour les générations aujourd'hui une période triste et c'est complètement absurde. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Quand je dis complètement absurde, je voudrais qu'on comprenne deux secondes. Les élèves de Rabbi Akiva seraient morts du Covid-132, d'une épidémie, l'homme échané. On va y revenir, mais deux secondes. Avant de démonter l'idée même de l'épidémie, on n'y est pas encore, mais disons qu'ils sont tous morts dans l'épidémie. 24 000 personnes sont mortes de l'épidémie. Donc, vous serez d'accord avec moi que donc, dès l'année prochaine, le grand rabbinat d'Israël doit instaurer non pas la période de deuil pendant le Homer, mais la période de deuil depuis Pourim jusqu'à, je ne sais pas, on verra quand va se terminer toute cette histoire. On va dire, allez, juillet, début juillet. Donc en fait, il faudra faire je pense que l'année prochaine, donc le rabbanout, le grand rabbinat, ils vont décréter une période de deuil de 4 mois. Ah bah oui! Si tu me dis que 24 000 personnes qui sont mortes, ça a généré une période de deuil qui a duré 2000 ans, je ne veux pas être pessimiste, mais les chiffres pour l'instant sont plus élevés que 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et puis, j'ai une autre problématique par rapport à tout ça. Dans l'histoire, mais on en a vécu bien d'autres. Des épidémies. On a vécu plein des épidémies. Et je ne parle pas que du peuple juif, le monde entier. Mais le peuple juif dedans. Quand tu parles de la peste noire et autres grippes espagnoles, et pour aller de loin et de pas loin, l'homme échané. Dans le monde, il y en a eu plein des épidémies. Épidémies dans lesquelles le peuple juif a aussi été touché. Est-ce qu'on en a tout de suite mis en place une période de deuil? Mamache de deuil? Bizarre. Il y a un autre truc qui est bizarre à Bataille. C'est-à-dire que c'est un virus quand même très, très, très sélectif, le Covid-132. Non, parce que t'es élève de Rabbi Akiva, tu chopes le machin. T'es pas élève de Rabbi Akiva, t'es protégé, t'as pas besoin de masque. C'est-à-dire que ça se transmet de manière gmaratique. Autre problème. Dans mon histoire qu'on m'a racontée, et je ne dis pas qu'elle est fausse, attention, hein. on va y revenir. Mais dans l'histoire qu'on m'a racontée, ces élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts? L'onagou kavod zebazé. En d'autres termes, ben ils n'étaient pas si tzadikim que ça. Sinatrinam. Sinatrinam, l'on a agou kavod zebazé. En d'autres termes, ils ont échoué à être les élèves de Rabbi Akiva. Donc, si ce n'étaient pas des si grands tzadikim, ben il n'y a pas de raison que je me mette à faire un deuil pour eux. Je peux t'assurer que sont morts dans la Shoah bien plus que 24 000 personnes qui étaient beaucoup plus tzadikim que les élèves de Rabbi Akiva. Et on n'en a pas fait une période de deuil de 3 mois, 4 mois, 5 ans. Oui, à Yom HaShoah, on marque le coup. Tisha B'Av, on parle de keynote de la Shoah. Donc ça ne me dérangerait pas qu'à Tisha B'Av, on fasse une kina pour les élèves de Rabbi Akiva. Yala, nous, shoin. Mais qu'est-ce que cette histoire? Que parce qu'ils ont chopé un rhume, et oui, c'est de ça que je parle, d'un rhume, alors on a fait toute une période de deuil. Alors venez, il est temps qu'on lève le voile sur toute cette histoire. Ce sont les élèves de Rabbi Akiva qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, eh bien, on va pouvoir replacer les choses dans leur contexte. S'ils sont les élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'ils vivent à une époque où il y a encore Rabbi Akiva. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien. Rabbi Akiva vit dans une époque absolument incroyable. Il est un témoin de la destruction du deuxième temple. Mais à l'époque de la destruction du deuxième temple, il n'est pas encore Rabbi Akiva. Il n'est pas encore l'influenceur des réseaux. Il est encore élève. Et ce n'est que beaucoup plus tard, autour des années 120, non, j'exagère, excusez-moi, autour des années 90, c'est ça, qu'il commence sa peilout tziburit, qu'il commence son activité en tant que Rabbi Akiva. On est à peu près 20 ans après la destruction du temple, et c'est là que Rabbi Akiva prend les rênes de l'éducation juive. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, dans cette période-là, quand il devient Rosh Lachachamim, le patron des rabbins, eh bien, l'ambiance du peuple juif est clairement définie. Le Bet Amigdash a été détruit, les Romains ont massacré un demi-million de juifs, comme le dit Flavius Joseph, la pression romaine est de plus en plus présente, et plus les années passent, et plus l'étau romain se ferme, l'empereur Adrien monte sur le trône, les premiers décrets anti-juifs, et voilà l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons. Dans cette ambiance, les juifs n'en peuvent plus, et donc ils vont suivre de manière beaucoup plus importante que durant la grande révolte des années 66-70, ils vont suivre un nouveau chef qui s'appelle Shimon Ben Kosva, ou alors Shimon Bar Korva. Rabbi Akiva nous dira le Rambam, la chose suivante. Dans les lois sur les rois, au chapitre 11, halakha 6, nous dit le Rambam la chose suivante. Al ya'ale al da'atra. Ne pense surtout pas. Sha'melech ha-mashiach tzarech la'asot otot u'moftim. Que le melech ha-mashiach, il doit faire des miracles. Ou mechadesh dvarim ba'olam, il doit faire des nouveautés dans le monde. Ou mechayim etim, ressusciter les morts. Vekayotze ba'dvarim elu. Ou que toute autre chose qui ressemble à ça, she'atipshim omrim, comme le disent les débiles. Bah ouais, le Rambam te dit, tout celui qui dit que le Mashiach va venir, il y aura des licornes volantes qui vont survoler ta maison et tu auras des arbres à Gmarot, celui qui dit ça, il est débile, nous dit le Rambam. Et Lama, d'où est-ce qu'il sort ça, le Rambam? Ben il te dit, ah ben moi je le sais. Pourquoi je le sais? Eh bien, parce que En Adavar Ken Sheare, d'où je le sais, monsieur Rambam, Sheare Rabbi Akiva, Chacham Gadol mi Chachme Mishnah Aya, il était le plus grand des rabbins de l'époque de la Mishnah. Vehu Aya Nose Kelav Shel Ben Koziva Amelech, il était l'écuyer de Bar Korva. Voilà ce que nous apprend la Gemara. Il était l'écuyer de Bar Korva. Bon, écuyer, on n'entend pas forcément au sens moyenâgeux. Je vois mal, à ce moment-là, Rabbi Akiva, si on parle de la guerre de Bar Korva, Rabbi Akiva a 117 ans, je ne le vois pas porter un bouclier, tu vois. Mais, ça veut dire que c'était le soutien numéro 1 de Bar Korva. Mais ça ne s'arrête pas là. « Ve'u aya omer alav, she'u amelech ha-mashiach. » Et il disait de lui, c'est lui le Mashiach. Et pourtant, il ne lui a pas demandé de miracle. Et je vais te dire mieux que ça. Il n'était même pas au top aux yeux des rabbins. C'est-à-dire que Bar Kokhba faisait des choses qui déplaisaient énormément au Rabbanim. Et Rabbi Akiva pourtant dit, mais il est en train d'essayer de nous sauver des Romains. C'est exactement ça qu'on attend du Mashiach. Donc, je l'appelle Mashiach. Vedimaou vechol chachme doro chez Ouamelech HaMashiach. C'est pas seulement Rabbi Akiva. Rambam nous dit, c'est tous les rabbins de sa génération qui étaient d'accord avec lui. Et on nous dit, bah, finalement, il est mort et il n'a pas réussi à faire ce que le Mashiach doit faire. Bon, bah, alors, c'est pas lui. Alors, pourquoi le Rambam nous amène ça? Pour nous dire à quel point Rabbi Akiva a embrassé la cause de Bar Kokhba. Donc, maintenant, je vous pose une question. Si Rabbi Akiva est l'écuyer de Bar Kokhba, ça son soutien le plus important. Vous voyez où je veux en venir? Il y a une guerre de survie du peuple juif. C'est pas une petite miftza dans la bande de Gaza. C'est une guerre totale contre l'armée romaine. Et ça va être une guerre totale, mamache. Non, comprenez-moi bien, ça va être une guerre totale, mamache. C'est-à-dire que les Romains, finalement, vont arriver à faire venir 14 légions en Judée pour battre Bar Kokhba. 14 légions, quand on sait qu'une légion, c'est entre 15 et 20 000 hommes. Faites votre calcul. C'est énorme. À part quand ils ont conquis l'Hispanie et quand ils ont dû repousser les Parthes, les Romains n'avaient jamais soulevé une aussi grande armée. Alors, c'est un truc de déglingo pour battre Bar Kokhba et ses fermiers. Donc, c'est une véritable guerre de survie. Et donc, tu penses vraiment que les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient au Beit HaMidrash et ils ont chopé un rhume? Où étaient les élèves de Rabbi Akiva? Bavro, c'est pas shoot. Emayou, Bamilchama. Ils étaient à la guerre. Ils étaient à la guerre. Ah, vous allez me dire, mais attends, non, quand on étudie la Torah, on est dispensé d'aller faire l'armée. Non. Ni à l'époque, ni aujourd'hui. La halakha est très claire. Je ne parle pas des accords qu'on a passés avec l'État. Aujourd'hui, si tu as un ptor de l'État, bah, tant mieux pour toi si tu n'as pas envie. C'est tant pis pour le peuple juif. Mais au niveau de la halakha, le Rambam est possède dans les lois sur les guerres, chapitre 5, que, effectivement, Khatan ou d'autres personnes sont ptourim de la tzet la milchama, mais on parle d'une milchama de reshut. Pour ce qui est de milchemet mitzvah, car il y a deux styles de guerre, la guerre de facultative et une guerre de mitzvah, et bien pour les guerres de mitzvah, tout le monde doit participer à l'effort de guerre, y compris le texte du Talmud, c'est « Afilu chatan yotse michedro vechala michupata ». C'est le chatan sort de sa chambre et la kala de sa chupa. Alors c'est quoi les guerres de mitzvah? Bien, il y en a trois sortes. Soit la guerre contre Amalek, c'est pas ça. Soit la guerre contre les sept peuplades cananéennes, c'est pas ça. Soit Ezrat Israël miyad atzar abba aleem, aider le peuple juif contre un ennemi qui veut le massacrer. C'est exactement le cas de l'époque de Bar Kokhba, c'était exactement le cas également, enfin c'est le cas aujourd'hui de Tzava à Agana l'Israël. Donc, ça paraît barour que les élèves de Rabbi Akiva sont dans la guerre de Bar Kokhba et vont mourir à la guerre. Bon, mais sauf que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est une svara. J'amène une idée qui est tout à fait logique, qui est totalement plausible, qui est vraie d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est qu'une idée. Est-ce que mon idée peut s'appuyer sur des faits, sur des textes clairs? Parce que moi, je t'amène ça comme ça, mais depuis 2000 ans, t'as vendu que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont chopé un rhume. Chas v'shulem qu'ils étaient à la guerre. Quelle que soit la façon dont ils sont morts, ce n'est pas une perte énorme d'avoir perdu la guerre de mes juifs qui étaient, dit-on, du même niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Mais mon ami, je vais te dire tout de suite. D'abord, 24 000 personnes qui étaient au niveau de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, mais ils ne peuvent pas être au niveau de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Ils étaient certainement au niveau de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon en termes de limoud. Ils connaissaient les Gmarot, bon, il n'y avait pas de Gmarot à cette époque-là, mais je veux dire, tu comprends. Ils avaient des connaissances de Torah au moins aussi grandes que les rabbins qui viennent après. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne fait en aucun cas des gens qui sont au niveau. Parce que l'ona agou kavod zebazé, mazeme chané, à quoi ça sert que tu sois un juif qui connaisse tout le chasse par cœur dans ta tête si t'es un pourri? Mazeme chané. Non, ils n'étaient pas au niveau de Rabbi Meir. Non, Rabbi Meir, c'était un homme qui aimait tous les juifs et qui a même accepté de se faire cracher dans l'œil pour faire le shalom bayit entre un homme et une femme. Rabbi Shimon bar Yochai, il a passé toute sa vie en sortant de la grotte à aider d'essayer les juifs de Tveria et des autres environs. Ils n'étaient pas tous d'accord avec lui et lui n'était pas tous d'accord avec eux. Nagou kavod zebazé. Rabbi Shimon et Rabbi Meir, ils sont jamais d'accord dans la halakha et pourtant ils se disputent jamais. Pourquoi les grands rabbins du monde orthodoxe ne disent pas cela ? Attendez, le pourquoi les rabbins chavadim ne disent pas ça, on n'a même pas encore dit les sources. Deux secondes, qu'on voit les sources. Peut-être que pour l'instant, je n'ai amené qu'une thèse. Peut-être qu'elle est complètement absurde, ma thèse. Donc, avant de poser les questions pourquoi là-bas ils ne disent pas pareil, venez, on regarde si ça tient la route. Peut-être que ça ne tient pas la route, ce que je dis. Mais pour revenir à ta question de 24 000 personnes qui étaient au niveau de Rabbi Akiva, c'est une perte énorme. D'abord, chaque juif, c'est une perte énorme. Mais ils n'étaient pas au même niveau. Non, mais je ne suis pas du tout en colère contre vous, hein, pas du tout. Bien sûr, je sais que vous répétez ce que vous avez, mais je tiens à appuyer sur le fait que c'est bien gentil de vouloir dire « Ouais, c'était des tzadikés olam ». Alors, si c'était des tzadikés olam, eh ben, ils n'auraient pas été comme ça. Ils n'auraient pas fait l'erreur de Sinatrinam, qui est une des pires possibles et imaginables. Donc, je sais bien que c'est ce qu'on vous a enseigné, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce n'est pas contre vous, ce cri du cœur. C'est contre ceux qui vous ont enseigné. Mais, par contre, je me permets, et c'est ce que, ça n'a rien à voir avec le cours, hein, c'est une parenthèse générale, je me permets de dire ça, et ça vaut pour ce que moi je dis. C'est pour ça que j'ai dit, là il y a deux secondes, attendez de voir mes arguments, parce que peut-être que je dis des bêtises. Mais quand on étudie la Torah, ce n'est pas le rabbin qui a la connaissance, et ceux qui sont de l'autre côté, qui ne connaissent rien, qui doivent boire les paroles. Il y a un cli, un ustensile qu'on est obligé de garder ouvert à 2 millions de pourcents pendant un shiur de Torah, c'est son esprit critique. Si on vous dit, ils étaient extraordinaires, et posez la question, alors pourquoi l'ona a goûté à votre zébazé s'ils étaient si extraordinaires ? Quelqu'un d'extraordinaire, il ne se comporte pas comme un pourri. Nekuda. Il n'y a pas, non, mais tu ne comprends pas à leur niveau. Non, il n'y a pas à leur niveau. Prenons des gens extraordinaires. Prenons le Rav Mordechai Eliyahu, par exemple. Le Rav Mordechai Eliyahu, tu ne connais aucune histoire qu'il était extrêmement en guerre contre un autre rabbin. Il n'était pas d'accord avec plein d'autres rabbins, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir un kavod profond pour la Torah et pour les gens qui l'a présenté. Donc, point. Alors, venez, maintenant, on rentre dans notre histoire. Ah, en potentiel, ils avaient le niveau, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord, mais en potentiel, vous et moi, on a aussi le niveau. Ça dépend de comment on va l'utiliser. Bien sûr qu'en potentiel, si Rabbi Akiva les a formés, c'est que il s'est dit que c'était des gens bien. Mais finalement, ils ont mal tourné. Est-ce que ça ne jette pas aussi un problème sur Rabbi Akiva ? Bien sûr que oui. D'ailleurs, tu remarqueras que Rabbi Akiva nous dira le texte, et je vais le lire là dans deux secondes, que Rabbi Akiva, finalement, quand il va faire de nouveaux élèves, la deuxième promo, si tu veux, de Rabbi Akiva, c'est plus 24 000 personnes. Hein. C'est 5. Peut-être que Rabbi Akiva, il a compris qu'il ne peut pas transmettre Ve'ahavta le'reacha kamocha et klal gadol batora à 24 000 personnes. Alors venez, on va voir de quoi il s'agit. La Gemara qui nous parle de l'épidémie, de la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est la Gemara dans Maseret Yevamot à la page 62. Nous dit la Gemara la chose suivante. Amrou, Rabbi Shimon Bar Yochai n'a-t-il pas provoqué la mort d'un juif la première fois qu'il est sorti de la grotte ? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'il n'était pas prêt, c'est pour ça que la voix est sortie du ciel, il lui a dit « Oh, si t'es venu pour détruire le monde, tu retournes dans la grotte ?» Et d'ailleurs, il y est retourné pendant 12 mois. Pourquoi ? Parce que Zemishpat Rechaim Begeinom. C'est-à-dire que le temps que passe un rachat au Geinom, c'est 12 mois. Donc Rabbi Shimon est retourné 12 mois. Ça veut bien te dire que la première fois qu'il est sorti de la grotte, il n'était pas encore Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok ? Bekitsur, Amru, 12 elef zugim talmidim, ayulo le Rabbi Akiva. On dit la Gemara que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves. Migivat vad antipatris. C'est-à-dire qu'il couvrait tout le pays d'Israël. Et il couvrait tout le pays d'Israël. Migivat antipatris. Vekulam metu be perek echad, mipne shelo nahagu kavod ze laze. Vaya olam shamem. Ils sont tous morts d'un coup, en une période, quoi, parce qu'ils ne se respectaient pas. Et le monde était affligé. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom. ושינה להם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו תורה אותה שעה. Et finalement, après la mort de ses élèves, Rabbi Akiva a été donc formé sa deuxième promotion, fait de 5 rabbins, et c'est de eux qu'on a reçu toute la Torah. Tov, mais ça ne dit pas comment ils sont morts. On dit juste qu'ils sont morts parce que l'Ona Agu Kavod Zebazé. Entre parenthèses, quand tu es à la Yeshiva et que bah, tu ne respectes pas ta Havruta, ce n'est pas dangereux. Par contre, quand tu es à la guerre et que tu ne respectes pas celui qui donne les ordres, ça peut être très, très, très dangereux. Mais bon, on va voir. En tout cas, donc ça continue. Et la Gemara continue et nous dit « Vekulam metu mi Pesach va'ad Atzeret » Ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot. « Amar Rafchama barava veitema rabichia baravin kulam metu mita ra'a » Et là, la Gemara nous dit « Ils sont tous morts de mita ra'a » Une mauvaise mort. Mais qu'est-ce que c'est une mauvaise mort? Amar Rav Nachman, Askara. Rav Nachman nous dit qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise mort? C'est Askara. Pas Askara, Askara. Lo Barour, c'est quoi cette histoire? Comment ils sont morts alors? La Gemara nous a dit Mitara'a. Mais qu'est-ce que c'est que Mitara'a? Ah, ben, si vous voulez savoir ce que c'est Mitara'a, il faut aller voir dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, à la page 55. Là-bas, la Gemara va nous dire tout simplement que Mita Ra'a, c'est l'inverse de Mita Yafa. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais Mazé Mita Yafa, c'est une mort qui ne fait pas honte à l'homme. Mita Ra'a, c'est donc une mort qui fait honte à l'homme. C'est dans un cas où, la Gemara, elle parle d'un cas que quelqu'un serait condamné à mort par le Sanhedrin. Donc on te dit, tu as quand même, malgré le fait qu'il a été condamné à mort, Mitzvah de Ve'afta la'aracha kamocha, donc, la Gemara nous dit, Beror l'homme Mita Yafa. Choisis-lui une belle mort. Enfin, une mort donc qui ne lui fait pas honte. La Gemara pose donc la question, ok, mais alors c'est quoi une mort qui nous fait honte? L'inverse, Mita Ra'a. Et la Gemara répond, Mita Trere. C'est-à-dire que l'épée, c'est considéré comme étant une mauvaise mort. Tout simplement parce que bah, ça troue le corps de l'homme et c'est l'okavod pour le maître d'être troué quand il va être enterré. Donc de là, la Gemara nous explique tout simplement, c'est quoi Mita Ra'a? Mita Trere. Par l'épée. Donc on te dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts Mita Ra'a. Ben, c'est pas shoot. C'est l'épée. À la guerre. Amar Rav Nachman, qui vit, entre parenthèses, 450 ans après la guerre de Bar Korva, Rav Nachman vient et te dit, non, moi je te dis que Mita Ra'a, en fait, c'est Askara. Mais il t'a pas dit qu'est-ce que c'était Askara. C'est compliqué cette histoire. C'est quoi Askara? Si tu regardes Rashi, Rashi t'explique que c'est une épidémie, que c'est une maladie que nous on pourrait appeler la diphtérie, et qui te dit que voilà, c'est une maladie qui fait que tu t'étouffes, machin. Rashi, qui vit 1000 ans plus tard, ne parle, et ben justement, Jurassic Park 55. Je ne sais pas qui tu es, Jurassic Park 55, mais tu as raison. Parce que Rashi ne parlait pas arabe. L'arabe, l'araméen sont des langues qui sont très proches, comme l'hébreu d'ailleurs. Askar, alors je le dis certainement très mal avec mon accent polonais, mais Askar, ça veut dire soldat en arabe. Quand Rabbi Rav Nachman te dit qu'ils sont morts, mais Askara, c'est en tant que militaire. Alors pourquoi Rachid t'a dit diphtérie? Parce que, un, il ne parlait pas l'arabe, et deux, parce que c'est aussi très possible que ce ne soit pas une contradiction. Je vous rappelle que dans l'histoire humaine, nombre des épidémies qui ont frappé le monde ont commencé dans des camps militaires à cause des conditions d'hygiène pourries qu'il y avait dans les camps militaires. Donc c'est très possible qu'il y ait aussi une épidémie qui se soit développée là-bas. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut que tu comprennes qu'ils sont morts Bamilchama. Là, on n'est plus en train de parler d'une svara, d'une idée qui est la mienne. Je commence à vous donner déjà des bonnes références. Mais attendez, ça va aller encore plus loin. Rabbi Akiva, si on suit l'idée que je vous ai lancée, Rabbi Akiva donc envoie tous ses élèves à la guerre. Parmi ses élèves, il y a ses enfants, qui sont aussi ses élèves, et qui vont aussi donc partir à la guerre. Comment je le sais? Eh bien, c'est marqué, allez, pas noir sur blanc, mais noir sur blanc cassé, dans la Gemara, dans le traité de Moed Katan, à la page 21. Là-bas, on nous raconte Maase ou metu banav shel Rabbi Akiva. On nous raconte l'histoire de la mort des enfants de Rabbi Akiva. Quand ils sont morts, à ce moment-là, nichnesu kol Israël veispidum esped gadol. Tout Israël, bon, c'est une image, hein, mais plein de monde est venu à l'enterrement. Bechat petiratan, amad Rabbi Akiva safsal gadol veamar. Au moment où tout le monde allait prendre congé, ça y est, c'est la fin de l'enterrement, Rabbi Akiva s'est mis sur une estrade et il a dit Achenu bet Israël, shamu, écoutez-moi tous mes frères. Afilu shne banim chatanim menucham hu bishvil kavod she'asitem. C'est bien que mes enfants soient deux chatanim, ça me fait kiffer. Tout à fait. Alors, je n'ai pas parlé d'Adrien, mais tu as totalement raison. Adrien a dit que jamais guerre ne lui aura coûté autant d'hommes et autant de souffrances. Je vais aller même plus loin. La guerre de Bar Corva va être un véritable tournant dans le Sénat romain. Vous savez que normalement, en temps de guerre, l'empereur qui prend la parole au Sénat doit commencer en disant « Paix sur moi et sur mes légions ». Mais pendant la guerre de Bar Corva, il ne dit pas cela. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas la paix dans les légions. En tout cas, on dit à Rabbi Akiva, bien malgré que mes enfants, malgré que ça ne se dit pas, mais bien que mes enfants étaient des chatanim, j'ai une menoucha de vous voir tous ici. En quoi c'est important de savoir qu'ils étaient chatanim? Comme on a dit tout à l'heure, le seul cas où le chatan doit se mettre en danger, normalement chatan, shana naki yé le beito, il doit rester à la maison pour être préservé. Mais le seul cas, d'après la halakha, où le chatan sort se mettre en danger, c'est bemelchemet mitzvah. Ça commence à être sérieusement compromis de penser que c'était juste un rhume. Et puis tout d'un coup, la Gemara, toujours dans le traité de Moed Katan, à la page 28 cette fois, donc 7 pages plus loin, nous raconte une autre histoire. Et nous dit, ben, les enfants... La compagne juive, c'est une légende. La compagne juive d'Adrien, c'est une légende. Donc, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Et la guerre, elle se passait extrêmement mal. Imagine-toi qu'au début de la guerre, il n'y a qu'une seule légion à Jérusalem. Après, il en amène 3 autres, donc il y a 4 légions, et il perd. Je ne sais pas si tu te rends compte, la guerre de Bar Corva dure 3 ans. Pendant les 2 premières années, on gagne. On gagne si bien que Bar Corva va même réussir à revenir à Jérusalem et à refaire les corbanotes. Il n'y aura pas de Beth Amikdash, mais... Et finalement, on est noyé sous 14 légions, et là, on perd. Donc, c'était une guerre qui était terrible. Pour nous, elle a coûté près d'un million de morts. Pour eux, laisse tomber. Ils ont gagné parce qu'ils étaient tellement plus nombreux. Mais, laisse tomber. Il est tombé malade, sans suivi à qui va Ken Omrim. Nahon, tu as raison, on dit cela. N'a pas ton fait le petit coup de... Pas du tout une légende, archive romaine. Tu seras alors mon ami, enfin Claudia, je me permets de ne pas être d'accord avec ces archives-là. Il y a autant d'archives contradictoires que d'archives qui prononcent ça comme ça. Donc de dire que Adrien était marié avec une juive, c'est quand même très 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 très. C'est comme toutes ces phrases que Hitler, sa mère était juive. C'est l'onira. Et même si sa femme était juive, ça ne veut pas dire du tout qu'il doit renoncer de dire paix sur moi et sur mes légions. Azma, sa femme, elle est juive. Je peux t'assurer que même si elle était juive, ce que je ne crois pas, même si elle était juive, elle n'était pas. C'était pas une Talmid Chacham, hein, c'était pas la meuf la plus méhacharim de l'histoire. Mais qui te sort ? Tout ça pour dire que donc on nous dit que, dans une deuxième histoire, que Metu Banav shel Rabbi Ishmael, que les enfants de Rabbi Ishmael, eux aussi vont mourir. Rabbi Ishmael, c'est la chavruta de Rabbi Akiva. Et tout le monde sait à l'époque que quand tu es en première année, deuxième année d'études, tu vas chez Rabbi Ishmael, après tu passes dans le cours de Rabbi Akiva. Donc en d'autres termes, les enfants de Rabbi Ishmael étaient aussi des élèves de Rabbi Akiva. Lorsqu'il meurt, eh bien, la Gemara nous raconte qu'il y a 4 rabbins qui vont rentrer pour le faire un esped. Ces 4 rabbins, ce n'est pas des petits joueurs, puisqu'on a Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi à Galili, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Presque tous ceux qu'on retrouve dans la Haggadah, par ailleurs. Donc, c'est des maîtres de la Torah, ils connaissent toute la Torah. Quelqu'un a dit que Adrien était une légende, donc je réponds non. Ah non, Adrien, c'est sûr que ce n'est pas une légende, ma pitonne. Ah putain, Adrien, c'est barreau. En tout cas, ta question, Alex, ne t'en fais pas. Elle viendra. Quoi qu'il en soit, il y a donc quatre rabbins énormes qui connaissent toute la Torah, qui viennent faire le hesped des enfants de Rabbi Ishmael. Tov ? Alors, quand je te dis qu'ils connaissent toute la Torah, hein, ils connaissent le Tanakh. Donc, ils vont donner des versets pour faire le hesped. D'ailleurs, Rabbi Tarfon, avant qu'il prenne la parole devant tout le monde, il dit à ses trois autres copains, il dit, regardez, Rabbi Ishmael, c'est un Talmid Chacham Gadol, il connaît toute la Torah. Alors, venez, on se met d'accord sur ce qu'on va dire pour ne pas qu'on dise chacun la même chose. Rabbi Akiva, il dit, ok, mais moi, je passe en dernier. Très bien. Donc, vous comprenez que chaque rabbin, le verset qu'il va utiliser est évidemment quelque chose de directement lié à la mort des enfants de Rabbi Ishmael. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, le premier, c'est Rabbi Tarfon. C'est le premier qui parle, autant pour moi. Alors, Rabbi Ishmael a d'abord dit à quel point il souffrait, et Rabbi Tarfon, donc, est le premier à faire le hesped. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Tarfon? C'est quoi le verset qu'il utilise? Eh bien, il parle « Ve'achechem bet Israël, yifku et aserefa ve'alot varim kalvachomer ». Il parle du verset qui parle de la mort de Nadav et Aviv. Vous allez me dire, quel rapport la mort de Nadav et Aviou le jour de l'inauguration du Mishkan? Quel rapport avec les enfants de Rabbi Ishmael? Il dit, tu vois, eux, Nadav et Aviou, ils ont fait un truc bien, alors tes enfants encore plus. Quel rapport? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, par leurs actions qui ont amené leur mort, ils ont amené un feu étranger, mais c'est ce feu étranger qui a tout simplement amené l'inauguration du Mishkan. En d'autres termes, l'inauguration du Mishkan a été fait grâce à Nadav et Aviou. Et c'est ce verset-là qu'il utilise pour parler de la mort des enfants de Rabbi Ishmael ? Ben oui, parce que si on regarde encore les archives de l'époque, eh bien, comme je vous ai dit, une des choses qu'a fait Bar Korva, c'est de réinaugurer le travail, pas Beth Amigdash, parce qu'il n'y avait pas de mur, mais quel Avodat Amigdash, sans les murs. Le deuxième qui parle, eh bien, on va continuer avec Rabbi. Rabbi Yossi Agilili, c'est lui qui prend le deuxième quart et il dit, lui le verset qu'il prend c'est dans Melachim et il dit Vesavdu lo kol Israël vekavru oto ve'alot varim kal vachomer. On parle ici du hesped qui a été fait à Avia ben Yerovam, le roi d'Israël Avia ben Yerovam, qui n'était pas un grand sadique, mais il a fait un truc bien dans sa vie. Vous savez, son père Yerovam ben Nevat avait tout simplement mis des murs, fermé l'accès à Jérusalem pour les gens qui étaient dans le royaume du Nord. Avia ben Yerovam, son fils, a annulé ces murs-là et a permis aux Juifs de revenir du Nord à Jérusalem s'ils le voulaient. Quelqu'un, Rabbi Akiva, a délivré le monde du Temple. Il l'a perdu après, ce n'est pas que le monde du Temple. Il est arrivé jusqu'à Jérusalem, il a repoussé les Romains de Jérusalem et finalement, bah, après, il a perdu. Et donc, il s'est recroquevillé à Beta. Quoi qu'il en soit, hein, le deuxième verset qui est cité, c'est donc le verset qui parle de celui qui a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem. Rabotai, à l'époque de la guerre de Bar Korva, l'une des premières choses que Adrien, justement, va mettre en place, c'est le mur d'Adrien, à savoir un mur qui empêchait les Juifs d'arriver à Jérusalem. Et les premières choses qu'ont fait les équipes de Bar Korva, c'est de détruire ces murs-là pour permettre aux Juifs de revenir à Jérusalem. Le troisième qui parle, c'est donc Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il parle de Tzidkiyahu, de l'enterrement de Tzidkiyahu, Melech Yehuda, qui a fait un truc bien dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu de bien? Ah ben, Chizkiyahu, il a sorti. Il est, Tzidkiyahu Melech Yehuda, Shelo Asa Ela, Mitzvah Achat, Shehala Yirmiyahu Minatit, Kar Banav Shel Rabbi Ishmael, Achat Kama Vechama. Son seul truc bien qu'il a fait, Tzidkiyahu, c'est de sortir finalement le prophète Jérémie de sa prison où il l'avait mis. Il l'avait mis en prison parce que Jérémie avait dit qu'il faut se rendre aux Babyloniens. Il n'avait pas kiffé. Et finalement, il l'a sorti de la prison pour que finalement Jérémie puisse donner les névoïdes de Nechama de la fin de Megillat Echa. Là aussi, on est directement lié à la Nechama qui a été attendue par la guerre de Bar Korva. Et enfin, termine Rabbi Akiva. Termine Rabbi Akiva et dit, lui, il prend un verset de Zecharia. Et le verset de Zecharia que nous dit Rabbi Akiva, c'est le verset, ceux qui ont suivi le cours de Yom HaAtzmaout, c'est le verset où on parle du misped du Melech HaMashiach, Mashiach ben Yosef. le misped qui sera plus grand encore que celui qui a été fait par Achav, enfin pour Achav et pour Yoshiaou. C'est-à-dire que c'est un misped qui a été fait pour quelqu'un qui est mort à la guerre, comme ceux qui sont morts à la guerre avant lui, Yoshiaou et Achav, qui tous les deux sont des rois qui sont morts pendant la guerre. Et c'est tout à fait correspondant au fait que Rabbi Akiva pense que Bar Korva est le Mashiach. À Bataille, on n'a plus de doute. Bien sûr qu'ils sont morts à la guerre. Bien sûr qu'ils sont morts à la guerre. D'ailleurs, si vous avez encore des doutes, parce que j'ai fait des ping-pong, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où c'est marqué noir sur blanc ? Eh bien oui, tout simplement. Dans le premier livre de Halakha, si je puis dire, qui a été écrit après le Talmud, à savoir la lettre de Rabbeinu Shrira Gaon, à l'époque des Géonim, donc 200 ans après le Talmud, et bien dans les lettres Rabbeinu Shrira Gaon, il y a marqué comme ça, והעמיד רבי עקיבא תלמידים הרבה והיה שמדה דהיינו מלחמת בר קורבה על תלמידים של רבי עקיבא וכו'. Il le dit noir sur blanc, les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre de Bar Korba. Point. Donc il n'y a même pas de doute. Ils sont morts à la guerre de Bar Korba. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de ce rhume ? Pourquoi le Covid 132 ? Eh bien tout simplement parce que pendant 2000 ans, toute, on va dire, vous savez, la Gemara dans la Sefer Brachot, elle parle, elle dit que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il faisait des drachot sur la chute de Beta, sur la fin de la guerre de Bar Korba, hein, il donnait, je ne sais plus, 70 perushim. Et après, la Gemara dit que Rabbi Yochanan, qui vient une génération plus tard, donc qui est censé être moins grand que Rabbi, lui donnait une centaine de perushim. Et la Gemara demande comment c'est possible que Rabbi Yochanan soit meilleur que Rabbi. Et dit non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'à l'époque de Rabbi, Rabbi Yehuda Hanassi, il vit 70 ans après Bar Korba. Et donc il dit, à l'époque de Rabbi, il y avait encore des vieillards dans les synagogues qui avaient vécu la guerre de Bar Korba. Et quand ils commençaient à parler de ça, ils étaient tous en larmes, parce qu'ils se rappelaient. Rabbi Yochanan, c'est plus loin. Il n'y avait plus personne qui avait vécu les événements. Donc, on peut en parler avec plus de détachement. C'est comme, tu veux parler à un rescapé de la Shoah, Hein. Mais avec plus de détachement, tu peux en parler. Donc, pourquoi est-ce que pendant 2000 ans, on a mis de côté le côté guerrier de la guerre de Bar Korba et des élèves de Rabbi Akiva ? Et parce que la chute, à la fin, on a perdu. Et ça a été un traumatisme terrible. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a ancré ce deuil. Mais pas parce qu'il y a des gens qui ont chopé un rhume. Parce que comprenez bien ce que ça a fait, la guerre de Bar Korba. La chute, la défaite, finalement, après la guerre, a amené au véritable début de l'exil. A amené au premier décret antisémite d'Adrien, à savoir, un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem. Un juif n'a plus le droit d'habiter à un endroit où il pourrait voir Jérusalem. On change le nom de Jérusalem en Alia Capitolina. On change le nom du pays de Judée en Palestine. Les décrets antisémites, tout ce que tu veux. À ce moment-là, près d'un million de morts chez nous. Le peuple juif est détruit moralement. Là, tu m'étonnes que ça vaut le coup de faire un deuil pour ça. Baruch que ça vaut le coup de faire un deuil pour le deuil national qu'a été la chute de la guerre de Bar Korba. Les élèves de Rabbi Akiva, et pas que eux, les centaines de milliers d'autres juifs combattants ont essayé de ramener l'indépendance au peuple juif. Ça a échoué. Mais pendant 2000 ans, on n'a pas cessé, en filigrane, de savoir terriblement bien de quoi il s'agissait. Vous savez, Lag BaOmer, tu m'as posé la question, et Lag BaOmer dans tout ça, ben, je vais te dire. On dit la Gemara que Lag BaOmer pascou milamut. Sauf que dans l'autre Gemara qu'on avait lu tout à l'heure, c'est-à-dire que Lag BaOmer, ils ont arrêté de mourir. On a dit qu'ils sont morts jusqu'à Shavuot. C'est quoi, ils ont arrêté de mourir ? C'est juste qu'à Lag BaOmer, il y a eu un moment où on n'est pas mort. Ça veut dire quoi ? Eh bien, quand tu regardes les historiens romains, à savoir Dioclétius en l'occurrence, eh bien, il te dit qu'il y a un jour de printemps où il y a eu un combat terrible. La 22e légion romaine est rentrée en entier dans les territoires de Bar Korba et à la nuit tombée, il n'y a pas un seul légionnaire romain qui est sorti vivant. Et nous dit les Romains que les Juifs ont décidé d'en faire un jour de fête. Donc c'est quoi l'Lag BaOmer à la base ? C'est qu'on a éclaté la légion romaine. Finalement, ça n'a pas marché. Mais sauf que ça a tellement marché dans nos cœurs et dans nos souvenirs que mon ami, aujourd'hui, le minhag de l'Lag BaOmer, alors je ne sais pas comment on va faire avec M. Corona, mais l'Lag BaOmer aujourd'hui, c'est Medoura, c'est Marshmallow, c'est patates grillées. Mais c'est quoi le minhag le plus ancien de l'Lag BaOmer ? Le vrai minhag officiel de l'Lag BaOmer, et ce, avant que le Harizal vienne avec la Hiloula de Rabbi Shimon, tout ce que ça veut dire. Exactement. Nous dit le Bnei Issachar, le minag, à l'origine, c'était de tirer à l'arc. On s'entraînait à tirer à l'arc. Lama, parce qu'il faut apprendre. Ben non, justement pas. Les romantiques veulent nous dire que c'est grâce à Rabbi Akiva, grâce à Rabbi Shimon, parce que nous dit la Gemara, Masrat Shabbat, que Rabbi Shimon était tellement extraordinaire qu'à son époque, on n'a jamais vu un arc-en-ciel. Nous, ben, alors si on n'a jamais vu un arc-en-ciel, quel rapport de faire un minag où tu apprends à tirer des flèches? Quel rapport? Et là, on apprenait à tirer aux flèches, on apprenait à se battre. On a appris à se battre. C'était ça le minag d'origine. Pourquoi? Ben pour garder ce truc qui avait mené le peuple juif à l'espoir et qui finalement était à la chute. Mais Am Israël n'a jamais cessé de penser véritablement qu'il valait sortir d'exil à un moment donné. Et donc je reviens à ta question, Alex. Bien sûr que là où les élèves de Rabbi Akiva, là où la génération de Bar Korva a échoué, et mamash échoué à l'époque de 132, nous avons réussi depuis 1948. Et donc, si tu me poses la question, est-ce qu'il faudrait annuler aujourd'hui les minagim de deuil du Homer? Je te dis, mais oui à 100%. Alors, je n'ai pas autorité pour le faire, je ne suis pas le grand rabbin d'Israël, mais si tu me veux mon simple avis, ça me paraît évident qu'il n'y a plus de raison à avoir les minagim de deuil du Homer. Il faut redonner à la période du Homer sa grandeur, son grand Chol HaMoed, comme le Ramban disait. Alors, c'est pas moi qui décide, tant que le rabbinat n'aura pas décidé, ben, mais les Fachot, Yom HaAtzmaout, Yom Yerushalayim, ces journées qui sont les journées de la réussite, c'est complètement non seulement absurde, non seulement une preuve à quel point tu ne comprends pas le dévoilement de Dieu dans l'histoire, ce serait complètement idiot de continuer à être en deuil pendant ces journées-là de manière particulière. Et donc oui, Alakha le Maaseh, Yom HaAtzmaout, Yom Yerushalayim, tu dois mettre la musique à fond, te raser si tu as l'habitude de te raser, machin, nanana, barour. Sauf que dans tout ça, Ma Kesher, avec notre lag, Omer. Alors j'ai dit, ça peut être tout simplement le rapport parce qu'on a remporté une grande victoire à ce moment-là. Nachon. Mais on ne peut pas faire fi de la tradition juive qui a, après cela, relié lag Omer à Rabbi Shimon. Alors, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai Rabotai, c'est le successeur de Rabbi Akiva. Parmi tous les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon qui est the successeur. Et vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimon. D'ailleurs, elle est facile à trouver, elle est marquée dans le traité de Shabbat, à la page Lag, à la page 33. Donc ça, c'est facile à se rappeler. Vous connaissez l'histoire qu'à un moment donné, il discutait avec Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sur quel doit être notre ressentiment envers les Romains. Et Rabbi Yehuda, il dit, écoute, finalement, ils ont fait des choses quand même pas mal. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des routes, ils ont fait des termes, ils ont fait des routes, ils ont fait des shvakim, des marchés. On peut pas dire, ils ont construit le monde. Rabbi aussi, il s'est tué. Et Rabbi Shimon, il a dit, Michel Berach, il a dit, n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour eux. Ils ont fait des termes parce qu'ils aiment être à poil. Ils ont fait des routes, c'est pour mettre des impôts. Ils ont mis des shvakim, des marchés, c'est pour mettre des prostituées. Il y avait évidemment un quatrième personnage qui a été balancé aux Romains, évidemment. Et donc, les Romains, ils ont dit, Rabbi Yehuda, comme il a bien parlé, on va le mettre chef des rabbins. Rabbi aussi, on ne sait pas ce qu'il pense, donc on va l'amener à Tsipori, c'est là où il y avait la grande prison romaine. On va le garder au chaud. Et Rabbi Akiva, on a sorti des grandes affiches dans tout le pays, wanted, avec la tête de Rabbi Shimon, $10,000, mort ou vif, enfin plutôt mort que vif. Rabbi Meir n'était pas un petit joueur d'ailleurs, et c'est Saïd Oula ce soir. Alors, deux choses que j'ai à dire sur ta réflexion, mon ami. Non seulement Rabbi Meir n'était pas un petit joueur, c'était un très grand joueur. C'était d'ailleurs un tellement grand joueur que, eh bien, nous dit la Gemara, comment ça se fait que si c'est Rabbi Meir, il est tellement grand, eh bien, la halakha n'est jamais comme lui. Eh bien, parce qu'il était tellement grand que personne n'arrivait à comprendre ce à quoi il arrivait. Donc, il était trop grand. Donc, c'était un énorme joueur, mais il ne pouvait pas être le successeur. Pour ce qui est de Saïd Oula, comme tu es mon ami, je ne vais pas te dire ce que j'en pense. D'accord? Mais ça, c'est juste parce que tu es mon ami. En 1948, après le 5 hier, les grands rabbins d'Algérie ont écrit au grand rabbin d'Israël pour suggérer d'annuler les coutumes de Deuil. Nachon ! Mais pas que les rabbins d'Algérie, il y a eu un grand mouvement de rabbanim. Il y a eu même des rabbanim qui ont proposé d'arrêter Tisha B'Av, pour te dire. Finalement, le grand rabbin d'Israël n'a pas voulu prendre position. Non mais c'était ni que les Algériens ni que les Tunisiens. Il y a eu un mouvement. Mais malheureusement, le grand rabbin d'Israël n'a pas voulu se mouiller à ce niveau-là. Et c'est bien dommage. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, finalement, et celui, leur réponse fut que c'est une décision trop osée pour l'instant. Nous, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir la carrure. Ma la asot. C'est dommage, c'est dommage. Mais l'année prochaine, ils vont prendre la décision, c'est ce que je te dis. Entre-temps, ils auront le temps d'entendre le cours, donc ils vont forcément être convaincus par les arguments. Rabbi Shimon, l'Akba Omer, on ne peut pas donc la détacher de Rabbi Shimon. Et donc, je disais, donc l'histoire, vous la connaissez, et finalement, eh bien, après s'être caché un temps dans le Beit HaMidrash, il comprend que la pression devient de plus en plus importante, il va dans la grotte, à Pkiin, il étudie pendant 12 ans, et quand il ressort, eh bien, il n'a rien compris. Puisqu'il s'est rempli 12 ans d'une vie complètement théorique, une vie de grotte. Et donc, quand il sort et qu'il voit cet homme en train de travailler la terre, il dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre de côté la Torah pour travailler la terre ? Et il se la joue Superman avec des lasers qui lui sortent des yeux. De là, on pourrait penser que Rabbi Shimon Bar Yochai est un adepte assidu du Kollel. Il ne faut pas travailler, il ne faut que étudier la Torah. Bon, d'abord, on voit que Dieu, il n'est pas d'accord. Dieu lui dit, retourne dans la grotte, Recha, 12 mois. Mais Rabbi Shimon non plus n'est pas d'accord. Rabbi Shimon, c'est lui qui dira sur le verset « Ve'asavta deganecha » nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai « Zeh umanut » c'est le travail. Donc Rabbi Shimon, il voit très bien qu'il y a une valeur au travail. Il dit le Khatam Sofer, dans les Chidushé à Khatam Sofer sur Masechet Souka, que Rabbi Shimon n'est absolument pas contre la valeur du travail. Il dit qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque au travail « Bezman shel galut » en période d'exil, où lorsque tu travailles, tu amènes ta petite parnassa, mais tu fais surtout plaisir au goy qui est chez qui tu es. Aval Bezman Geoula, nous dit le Khatam Sofer, il est évident que Rabbi Shimon Bar Yochai non seulement n'est pas contre le Chaye Amaase, mais au contraire, il y trouve un idéal. Il nous dit le Khatam Sofer, c'est tout cet idéal que Rabbi Shimon Bar Yochai va mettre dans son Sefer Azohar. Parce que lorsqu'il sort finalement de la grotte la deuxième fois, eh bien c'est dans ces 12 mois qu'il reçoit Sefer Azohar, ce n'est pas pendant les 12 ans. Et donc, quand il ressort avec Sefer HaZohar, Sefer HaZohar est tout simplement le madrir. Comment est-ce qu'on sort d'exil ? Le madrir pour sortir d'exil, c'est l'étude du Sefer HaZohar. Car il va nous expliquer que l'idéal est de trouver la Kedusha qu'il y a d'Afka dans Chaye Achulin, dans Chaye Amaase. C'est ça la grandeur de l'Akba Omer. Mélanger l'Akba Omer et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire mélanger la victoire et finalement la chute après, et Rabbi Shimon, c'est tout simplement comprendre qu'aujourd'hui, fort de notre victoire réussie, eh bien nous pouvons mettre en pratique les enseignements de Rashbi. Nous pouvons maintenant mettre en pratique les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit comment trouver une valeur à chaque chose qu'on fait Ba'olam Azé. Et c'est ça toute la force de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est une Sfira particulière puisqu'on compte depuis le Corban. Mais sauf que le Corban, on l'a fini, on ne le fait plus maintenant le Corban. Alors pourquoi est-ce qu'on se rattache toujours au Corban ? Simplement parce que le Corban HaOmer commence de manière dramatique puisqu'il commence avec Tzirat HaOmer, avec le moment où on coupe la mesure d'orge qu'on va amener le lendemain au Beit HaMikdash. Mais le Rambam nous dira que si ça tombe Shabbat, le lendemain de Pessah, alors on coupera pendant Shabbat. Bien que ce soit interdit de récolter son champ pendant Shabbat, bien sûr. Mais les prémices de ce qui va permettre, parce que le Corban HaOmer, c'est ce qui permet de profiter de la nouvelle récolte, c'est-à-dire de profiter du travail Batshana Hazot, eh bien le fait de montrer qu'à l'origine, le premier travail agricole, c'est-à-dire le premier travail Ba'olam Hazé de cette saison, est directement lié à Avodat HaKodesh, c'est ce qui nous permet de comprendre que dans chaque chose que je fais, je dois pouvoir y dévoiler la Avodat HaKodesh. Au fond, on peut faire la même chose que Yom Hazikaron le Chalalim et Yom Hatzmaout, célébrer à la fois les soldats disparus et leur courage. Mais bien sûr, sans faire de deuil, sans faire de deuil, et au contraire, en leur montrant que nous sommes joyeux grâce à eux. Bien sûr, je suis assez d'accord. Donc tout ça pour dire que Sfirat HaOmer nous emmène finalement à l'idéal de trouver de la Kedusha dans chaque chose. Mais ça, ce n'est pas possible, Bezman Galout. Bezman Galout, ce que tu fais, Baolam Hazé, c'est pour survivre. Ce n'est pas pour vivre. Et c'est ce que disait le Rav Israël Meir Lao. Lorsque je l'ai entendu une fois à la cérémonie de Yom HaShoah, lorsqu'il disait, pendant la Shoah, hein, j'ai survécu. Aujourd'hui, il est temps de vivre. Et c'est de cela qu'on parle. Pour comprendre comment vivre, eh bien, il faut comprendre que chaque moment est fondamental pour me faire arriver à l'autre. Parce que j'apprends de ce que j'ai fait aujourd'hui pour construire mon demain. Et c'est pour ça que dans la halakha, eh bien, si j'ai raté une journée de Sfirat HaOmer, je ne peux plus continuer à faire la Sfira Bebracha. Parce que continuer, ce serait dire que bon, finalement, ce jour-là, le 27 que j'ai raté, ben, il n'est pas important. Comment ça, il n'est pas important? Si tu penses que le 27 n'est pas important, tu as rien compris à l'évolution, à l'athlète. Et donc, c'est pour ça que chaque jour doit être compté. Pour comprendre qu'il y a une valeur à chaque chose que je fais. Et ça, c'est l'enseignement de Sfirat HaOmer, de Lag BaOmer, de Rabbi Shimon Bar Yochai et son Zohar, et de tous ces gens qui, certes, n'ont pas réussi à l'époque de Rabbi Akiva de ramener la Géoula, mais qui nous ont montré le chemin comment faire pour que 2000 ans plus tard, eh bien, on en devienne les dignes successeurs et qu'on réussisse là où nos ancêtres ont échoué pour ramener la Simcha Gedola, la Sfira Hazot. Et donc, ça me permet de terminer sur cette phrase incroyable du Baal HaAkedat Yitzhak qui dit la chose suivante. Il dit, on aurait dû dire Shehechiyanu le premier soir où on fait la Sfirat HaOmer, comme à chaque fois qu'on revient sur une mitzvah qu'on fait cycliquement. Mais il dit que Sfirat HaOmer nous rattache trop à la Avodat HaMikdash. Et le fait de compter le Homer aujourd'hui, sachant qu'on n'a pas le Mikdash, c'est-à-dire sachant qu'on n'arrive pas à donner de l'importance à chaque chose qu'on fait, eh bien, ça nous empêche d'être suffisamment joyeux pour dire Shehechiyanu. Eh bien, j'espère que là, on a déjà passé la moitié de la Sfira de cette année. J'espère que l'année prochaine, le grand rabbinat d'Israël décrétera, avec le Beth Amigdash reconstruit, que non seulement la Avelout a disparu, mais qu'on pourra commencer le premier jour de la Sfira en disant « Baruch atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shehechiyanu V'Kiimanu V'Hagiyanu Lazeman Hazeh. » Merci à tous. S'il y a des questions, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe ? Question, pas de question, pas de question, question. Question, pas de question. Je laisse encore 10 secondes. Chazak ou Baruch n'est pas une question, mais Baruch t'y est. Top. Alors, s'il n'y a pas de question, les amis, eh bien, à bientôt. À tous. Oui, il va falloir assumer l'histoire du peuple juif dans son entier, je suis d'accord, à 100%. Alex, alors, avant que je coupe, c'est pas la peine que tu viennes dans une heure, j'ai prévu de faire le même cours. Donc, dans une heure, si tu reviens étudier, c'est pas la peine. Ou alors, si dans une heure, il se trouve que toutes les personnes qui sont connectées ont déjà vu ce cours-là, je serai obligé d'improviser autre chose. Mais a priori, j'avais prévu de faire la même chose dans une heure, parce que c'est pas le même public. Donc, bah, je ne sais pas quoi te dire. T'as qu'à allumer au tout début, si tu vois que je dis la même chose, tu fermes. Et tu vas te faire une pizza. Yofi, à bientôt les amis.